Bonsoir à tous et puis bienvenue sur le cours de F6KGL, donc le dernier cours de cette année 2020. Et ce soir, nous allons voir la deuxième partie du chapitre 1. Il y aura encore une troisième partie qu'on verra donc début janvier. Et donc ce soir, on va parler essentiellement des résistances et de leur montage. Donc on avait vu la semaine dernière la loi d'Ohm. Donc tout ce qui lie les relations entre la tension, l'intensité, la résistance, la puissance. Et donc on avait dit, les résistances, on les verra en détail la semaine prochaine. Eh bien nous y voilà, et on va donc voir en détail les résistances, ce qu'est une résistance, et puis le montage des résistances, donc montage en série et en parallèle. Et donc on va étudier ça en détail. Alors, première chose, les résistances, ce sont des composants électroniques qui ont une certaine valeur, qui est exprimée en ohm, on l'a vu la semaine dernière. Et pour les résistances, tout au moins pour les petits modèles, on va utiliser pour donner la valeur des résistances, non pas l'écrire en toutes lettres sur la résistance, mais on va utiliser un code couleur. Et ce code couleur, il est composé finalement de plusieurs bagues. Alors, concrètement, il y a au moins trois bagues dans une résistance. Donc une résistance, voilà, elle est comme ça, ça c'est une petite résistance classique, je dirais. Et donc, il y a des bagues. Alors, premièrement, il y a un sens, parce qu'évidemment, vous pouvez prendre la résistance d'un côté ou de l'autre, et évidemment, ça ne sera pas la même valeur selon qu'on lit les couleurs dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce qu'il faut toujours, c'est avoir les couleurs, enfin, le maximum de couleurs du côté gauche. Du côté droit, soit il n'y a pas de bagues du tout, ou il n'y en a qu'une seule qui est bien séparée là. On va voir tout à l'heure sur les photos avec des résistances réelles, on verra bien qu'il y a un ensemble de bagues là, qui va se trouver du côté gauche, et quand il y en a, il n'y en a qu'une seule qui va se retrouver du côté droit. Alors là, on en a trois, mais on peut en avoir quatre, voire cinq. Mais les questions d'examen, ce sont des résistances toutes simples, et donc, elles n'ont que trois bagues. Et on va voir que quand on a plus de bagues, c'est qu'en fait, la valeur est un peu plus précise. Donc, ces bagues, chaque couleur, signifie quelque chose, et en particulier un chiffre. Donc, il y a pour chaque couleur, on va avoir un chiffre, et il y a quand même pas mal de questions sur ce code couleur, et à mon sens, c'est quelque chose qui peut être utile par la suite quand vous bricolez, et donc c'est important de les connaître du coup, ça permet comme ça, plutôt que de sortir le multimètre et de chercher la résistance qui va bien, un simple coup d'œil et on la trouve beaucoup plus facilement. On verra que c'est pas aussi simple que ça. Donc, ce code pour coder les bagues, on a besoin au moins de trois bagues. On va avoir les deux premières bagues, là, donc en l'occurrence ici la bleue et la marron, ça va donner les deux premiers chiffres. Et la troisième bague va nous donner le multiplicateur, plus exactement le nombre de zéros qui suit. D'accord ? Donc la couleur ici rouge, donc la couleur rouge c'est la valeur 2, et si je vois une valeur 2, ici en troisième position, c'est qu'il y a deux zéros à la suite. D'accord ? Donc les deux premières bagues donnent les deux premiers chiffres de la valeur, et la troisième bague donne le nombre de zéros de la valeur. Cette quatrième bague, qui est ici, quelquefois on ne l'a pas d'ailleurs, mais dans quasiment toutes les questions d'examen, il y a ici cette bague qui est de couleur or, et c'est la bague de tolérance. On verra dans la description des résistances ce que veut dire cette couleur or. Alors, le code des couleurs, c'est une des 10 familles, et normalement, il devrait y en avoir toujours deux. On a vu en introduction que c'est pas certain que cette répartition continue de fonctionner, peut-être qu'elle a été débranchée. En tout cas, ça revient très souvent dans les comptes rendus que je reçois. Il y a au moins une question concernant le code couleur, donc voilà. À mon sens, ce serait dommage de faire l'impasse là-dessus. Cette quatrième bague, là, c'est la bague de tolérance, elle ne sert strictement à rien pour le jour de l'examen, elle est juste là pour vous perturber. Voilà. Et le jour de l'examen, les résistances, elles sont plutôt présentées verticalement. C'est-à-dire qu'en fait, je prends ma résistance, là, je lui fais faire un 90 degrés et je commence donc par la première, celle du haut, la deuxième et la troisième, donc en descendant. Voilà ce code des couleurs. Maintenant, quelles sont ces couleurs? Alors, les couleurs, voici toutes les couleurs, donc noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc. Vous remarquez que de rouge à violet, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Et c'est entre les deux, y a un marron en début, à la fin un gris. Voilà. Et aux extrémités, on a le noir tout en début et le blanc tout à la fin. Et donc, donc il faut se souvenir de ces couleurs. On commence non pas par le 1, mais par le 0. Donc, il faut bien l'avoir aussi en tête, ça. C'est-à-dire que si vous comptez sur vos doigts, n'oubliez pas que le noir, c'est 0, donc ne comptez rien là-dessus. Sinon ça vous décale d'un cran votre chiffre. Donc, c'est un peu bête. Pour se souvenir de ces couleurs, de l'ordre des couleurs, alors, il y a la phrase magique, moi j'en ai une, mais je vous connais tous, vous avez chacun votre phrase, il y en a autant que vous voulez que presque qu'il y a de personnes qui se préparent à l'examen, on en trouve une foultitude. Donc moi je vous propose celle-là, si vous en voulez une autre, si vous en avez appris une autre, ça ne sert à rien d'apprendre la mienne, et si vous n'en avez pas, autant apprendre celle-là. Voilà. Alors, comment ça marche? En fait, chaque mot de la phrase, ça correspond à l'initiale de la couleur. Voilà, donc ça commence bien. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Voilà. En voilà une. Je sens qu'il va y en avoir des tas sur le chat. Mais bon, voilà. Alors, il commence à peu près la mienne. Pareil, la mienne. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment, grand boa. Alors pourquoi je préfère battrai violemment? Parce que dans la phrase là de Dimitri, on voit bien, on a deux V. On a V de vert et V de violet. Et donc battrai violemment, ça va avec violet. Voilà pourquoi je préfère. Et vous remarquez qu'il y a aussi deux B. Il y a le battrai et le B de bleu et le B de blanc, qui donc battrait et boa. La différence, c'est que le blanc, il est à la fin, et donc, voilà. Et pourquoi boa? Parce que derrière, on a les couleurs or et argent, qu'on va voir dans le code sous forme tableau. Donc voilà comment on peut se souvenir de ce code. Alors, concrètement, sur votre feuille de papier, vous allez écrire ici les initiales. Sur votre feuille de papier brouillon, vous allez écrire les initiales. Et en face, donc les chiffres de 0 à 9. Et comme ça, tout de suite, du premier coup, vous allez avoir sous les yeux le code couleur sans chercher trop à comprendre. Ça ne sert à rien d'écrire noir, marron, rouge, orange, hein, vous mettez juste l'initial, ça suffit largement. Éventuellement, là, vous mettez viol pour violet, pour violemment. Voilà, et puis après, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir, sachant que la dernière couleur, c'est le blanc qui va à l'opposé ici avec le noir qui est en position 0. Voilà. Donc, voilà ce code couleur. Concrètement, là, j'ai trouvé cette photo qui exprime bien, voilà, une bague marron, donc ça c'est marron, c'est le 1, une bague noire, ça c'est le 0, donc ça commence par 0, et après le orange, alors c'est là où c'est un petit peu difficile des fois, le orange, on a un petit peu du mal à le... Enfin, là, on a un marron, donc on arrive à retrouver qu'on voit bien, c'est pas la même chose. Mais si on n'a pas le marron de référence, on peut confondre le orange avec le marron. Voilà. Ou quelquefois aussi, quand on a des vieilles résistances où la peinture elle a un petit peu, elle a un peu passé, ou la résistance elle a un peu chauffé, et donc la peinture elle a perdu un peu de ses couleurs, ben, c'est un peu difficile des fois de repérer. Ces couleurs avec les codes couleurs, les barres, les codes couleurs de ces anneaux de résistance. Ici, eh bien, et ça c'est bien excentré, on a une seule bague ici qui est la bague de tolérance, en l'occurrence une bague or, et qui donne une tolérance ici de 5%. Encore une fois, la bague de tolérance n'est pas une des caractéristiques à connaître pour l'examen. Voilà, et donc mon orange là, c'est 3. Donc, soit on est des bons mathématiciens et on dit que c'est 10 puissance 3, ou alors on n'est pas des bons mathématiciens et on dit que ça fait 3 zéros, ce qui est exactement la même chose. Donc concrètement, cette résistance qu'on voit là, c'est une résistance qui fait 10 kΩ. Hein, puisque 10 puissance 3, c'est donc des kilos. Alors, on pourrait imaginer que ce code de couleur, ça permette de coder toutes les possibles, enfin toutes les valeurs possibles. Alors c'est vrai. Mais c'est faux, puis parce que concrètement, vous n'allez pas trouver l'intégralité des valeurs. Exemple, si vous cherchez une résistance de 17 kΩ, bah, vous aurez énormément de mal. Pourquoi ? Parce que le 17 n'est pas une valeur normée. Qu'est-ce qu'une valeur normée ou normalisée ? En fait, faut repartir de l'origine. Les résistances, on a vu, ont des tolérances. Les résistances les moins chères, ce sont celles qui ont la plus grande tolérance. Tolérance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le constructeur, il s'engage à ce que la valeur indiquée sur la résistance soit bonne à un certain pourcentage de tolérance. Le pourcentage maximum qui a été défini, c'est 20%. C'est-à-dire que si vous avez une résistance qui fait par exemple 10 kΩ, comme celle de tout à l'heure, si vous la mesurez à l'ohmmètre, comme elle est de 20%, elle pourra avoir une valeur comprise entre 8 kΩ et 12 kΩ. Donc 20% de moins ou 20% de plus. D'accord ? Bon, ça quand même, c'est une certaine marge de manœuvre. Hein. Et bon, concrètement, le fabricant, il va faire en sorte qu'on ne va pas être trop loin quand même des 10 kΩ, hein, je vous rassure. Parce que sinon, et d'ailleurs, toutes les résistances que j'ai, même si elles n'ont que 3 bagues, bah, finalement, on va se retrouver avec des valeurs qui ne sont pas trop éloignées de la valeur qui est indiquée sur la résistance avec les codes couleurs. Heureusement. Mais cette tolérance fait que la valeur suivante, en fait, elle ne va pas être, par exemple, 12 kΩ, puisque 12 kΩ, ça pourrait être une valeur de 10 plus 20%. Mais on va se retrouver ici avec une valeur de 15 kΩ, puisque 15 kΩ moins 20%, ça me donne 12 kΩ, et 15 kΩ plus 20%, ça va me donner 18 kΩ. Donc finalement, on va se retrouver avec deux valeurs, 10 kΩ ou 15 kΩ, mais quand je suis en tolérance de 20%, je vais avoir que ces deux valeurs, 10 et 15. Par le même raisonnement, on va déterminer donc la 22 kΩ, puis la 33 kΩ, puis la 47 kΩm, puis la 68 kΩm, et enfin, on va revenir après avec 100 kΩm, mais on revient finalement à 10. Hein, puisque après, il suffit de changer le nombre de zéros qu'on a à la suite. Et donc ça, c'est une série qu'on appelle E6. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 valeurs. 10, 15, 22, 33, 47, 68. Et dans ces résistances à 20%, donc sans bague de tolérance, eh bien, vous n'allez trouver que des valeurs comme ça. Alors évidemment, vous allez trouver 10, 15, 20, 23, 47 et 68 ohms. Ensuite, vous allez trouver 100, 150, 220, 330, 470, 680 ohms, etc., etc. Vous allez à chaque fois trouver les mêmes valeurs, mais avec des nombres de zéros différents à la fin. Donc ça, c'est la série E6. Et puis après, quand on a une tolérance un peu plus petite, donc de 10%, et dans ce cas-là, on va avoir une quatrième bague de couleur argent, et bien en ce moment-là, on va se trouver dans une série qu'on appelle E12, et on va prendre le même raisonnement, si ce n'est qu'on va intercaler des valeurs entre ici mon 10 et mon 15, donc je vais avoir un 12, entre mon 15 et mon 22, je vais avoir un 18, etc., etc. Et donc je vais avoir, comme j'intercale à chaque fois entre deux valeurs de l'E6, je vais avoir une série qu'on appelle E12. Et donc, encore une fois, par exemple, mon 17 kΩ dont je parlais tout à l'heure, eh ben, il n'est toujours pas dans la série E12. Et on va encore avoir une série qui s'appelle la E24, donc ça va. Alors, c'est la E12 qui est quand même la plus courante. Enfin, c'est la E6 et la E12 qui est la plus courante. Hein. La E24, on va la trouver aussi, mais elle est un peu moins courante. Et donc, dans la E24, on va encore une fois insérer entre les valeurs des valeurs entre les résistances. Donc, on va. Voilà. Et donc ça, c'est la série E24, et là, et donc elle est à 5% de tolérance, et on va avoir une quatrième bague de couleur or. Ce sont les résistances que l'on présente dans les questions d'examen. Et évidemment, les valeurs de ces résistances, elles ne sont pas obligatoirement dans la série E24. Ça serait trop. Enfin, il n'y aura aucun intérêt, mais fait, voilà. On en a de toutes. On peut avoir toutes les valeurs possibles et pas spécialement celles qui sont dans la série officielle E24. Et puis au-delà du E24, on peut encore en avoir d'autres, mais dans ce cas-là, les tolérances elles deviennent très faibles, donc c'est des 2% et moins. Et dans ce cas-là, du coup, il va manquer des chiffres significatifs et on va rajouter donc une troisième bague pour les nombres, donc les chiffres significatifs, sachant que la quatrième bague est toujours le multiplicateur, donc le nombre de 0 ou la puissance de 10, comme vous voulez, et la cinquième bague, c'est comme toujours la bague de tolérance. Voilà. En règle générale, nous, radioamateurs, encore une fois, on va utiliser essentiellement ces E6 et E12. E24, on va l'utiliser, mais assez rarement. D'autant plus que dans nos applications, la plupart du temps, on va voir que la valeur des résistances, elle n'est pas cruciale. Et quand on a besoin d'ajuster précisément une valeur, une tension, eh bien on va utiliser des résistances variables pour ajuster au mieux la tension ou pour peaufiner le réglage, quoi. Donc voilà, pas de questions à l'examen sur ces séries de résistances, mais c'est pour vous expliquer voilà, un peu plus ce que c'est. Autre sujet, encore une fois, qui n'est pas où il n'y a pas de questions à l'examen, mais c'est intéressant de le savoir comment ça fonctionne. Donc là, c'est la présentation des résistances en elles-mêmes. Comment elles sont constituées? Donc en fait, on peut avoir deux types de présentations, soit les composants traditionnels, que j'appelle des composants à fil. Donc voilà, il y a un petit bout de métal qui est fait pour que ça ne s'oxyde pas, enfin bon, à vérifier. Donc c'est les composants traditionnels, et puis sinon il y a les composants montés en surface. Ici je vous en ai mis quelques-uns. Je zoome. J'aurais dû mettre. Et alors par rapport. Voilà. Donc ça, c'est une résistance qui fait, je pense, un huitième de watt. Hein. Ici, il y a une pointe BIC là, pour donner la dimension. Et ici, donc, ce sont des CMS. Donc ce qu'on va faire, on va souder de chaque côté ici, sur le circuit imprimé. Hein. Il n'y a pas de fil comme ici. Hein. Donc on va souder ici de chaque côté. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de code couleur, mais il y a des chiffres. Et évidemment, la résistance, là, par exemple, qui est marquée 104, elle va faire, non pas 104 ohms, mais elle va faire 100 kilo ohms, 10, puis multiplié par 10 puissance 4. Donc c'est 10 avec 4 zéros derrière, ce qui fait 100 000 ohms. Et ici, 153, elle fera donc 15 kilo-ohms. Ici, 513, 51 kilo-ohms. Et alors, vous voyez, il y a différentes tailles qui vont être en fait les différentes puissances dissipées par ces résistances. Puisqu'on a vu la semaine dernière que ce qui, pour pouvoir dissiper de la puissance, bah, il faut un peu de surface et de volume. Et donc on sent bien que la toute petite, là d'ailleurs qu'on voit à peine la valeur, hein, faut vraiment avoir une loupe très puissante pour pouvoir lire la valeur de ces petites résistances. Et donc bah, évidemment ça doit dissiper, je sais pas, quelques milliwatts, mais pas plus. Alors le CMS, c'est plus pratique. Ça dépend, hein. Pour souder des petits composants comme ça, il faut avoir une bonne paire de loupes et pas avoir la tremblote, hein. C'est un peu compliqué, hein, quand on voit par rapport à une résistance, et celle-là, elle est, à mon avis, ça c'est déjà un quart ou un huitième de watt, donc elles sont déjà toutes petites. Donc imaginez quand vous avez ça, c'est tout petit comme composant. Et c'est pas du tout évident à souder. Voilà, donc voilà, il y a des astuces après pour souder, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est beaucoup plus facile de souder sur des composants comme ça. Et alors à dessouder, là, c'est même pas la peine d'y penser. Je reviens à la taille normale. Donc ça, c'est les deux types de composants, soit à fil ou CMS. Hein, donc CMS, c'est composant monté en surface, hein, c'est ça que ça veut dire. Et puis les résistances, il y a en fait quatre types de résistances. On va les voir sur. Alors ça, c'est un. C'est un. Une planche qui a été scannée avec différentes résistances. Alors c'est un scanner à plat un peu spécial parce qu'en fait on arrive à prendre la photo finalement de composants, même que ce soit en volume. Alors, plus les CMS sont petits et plus la valeur sur la photo, hein, c'est une règle. Plus la valeur est grande. Non, ça n'a rien à voir. Hein. On peut avoir les mêmes valeurs de résistance avec mais de différents types. En fait, c'est juste la puissance qui change, c'est tout. C'est juste une histoire de puissance. Hein. Donc de puissance dissipée. Donc on sent bien que on arrive à dissiper de la puissance sur cette résistance-là. Sur celle-là, un peu moins, encore un peu moins sur celle-là, encore un peu moins sur celle-là, et quasiment plus rien. Et donc, c'est complètement un hasard qu'on ait utilisé des valeurs en augmentant. C'est la loi de Joule, elle va fonctionner de la même manière. Hein, la loi de Joule, rappelle, hein, c'est la tension multipliée par l'intensité, tout simplement. Donc, il faudra du coup limiter l'intensité ou la tension, ou les deux, dans la toute petite résistance. Quand on dit petit, c'est petit en taille, pas petit en valeur. Donc, sur le marché, en fait, on va retrouver quatre grandes familles de résistances. On va retrouver les résistances agglomérées, on va vous les montrer. Et donc ça, c'est des vieilles résistances. Voilà, donc Claude qui dit que la plus petite des résistances, là, donc c'est le format 0201, c'est par rapport au centième de pouce, je pense. Hein, c'est du centième de pouce. Et donc, elle peut dissiper seulement 1 vingtième de watts ou ça me fait donc 50 milliwatts. Donc c'est pas grand chose. Donc faut faire attention. C'est pas possible de faire une charge non rayonnante avec ce genre de résistance. Ou alors on en met toute une série et c'est peut-être pas ce qui est plus pratique. Voilà. Plus que elles sont pas faciles à souder. Donc, premier type, donc ce sont ces résistances agglomérées qui sont très anciennes. On trouve essentiellement ça dans les post-à-lampes. Hein, dans tous les post-à-lampes, c'était essentiellement des résistances agglomérées. On va les voir en détail. Ensuite, on a les résistances à couche de carbone. Donc ça, c'est les plus classiques. C'est les moins chers, mais pas spécialement les meilleurs pour nos applications. Les résistances à couche métallique, c'est un peu mieux, même c'est ce qu'on va utiliser, nous, de préférence, dans les montages, dès qu'il y a de la haute fréquence. Alors, peut-être pas trop en décamétrique, mais dès qu'on va être en VHF ou en UHF, on va préférer ces résistances-là, parce qu'elle pose moins de problèmes. On va voir pourquoi les résistances à couche de carbone posent des problèmes. Et les résistances bobinées, c'est absolument à proscrire pour nos applications, même si elles permettent de dissiper plus de puissance que les autres. Donc, à éviter. De toute façon, on les reconnaît. On voit clairement le fil qui est bobiné. Sur un mandrin en porcelaine, et donc on va les voir. Et puis bah évidemment il existe des composants un peu spéciaux, donc on va voir des résistances qu'on peut installer sur un radiateur, Et puis ici, des résistances qu'on appelle des deals ou des seals. Alors les deals, c'est des dual inline, et les seals, des single inline. Là, en l'occurrence, je pense que ça, c'est une seal. C'est un single inline. Voilà, on va voir. Mais ça, c'est plutôt pour des applications du style... enfin, des applications numériques, en fait. Dès qu'on va avoir des lignes. Voilà. Alors, cette planche-là, elle est disponible sur ce lien qui est ici. Ça renvoie sur un fichier JPEG que j'ai mis ici. Alors, on va aller dessus tout de suite, Firefox. Voilà. Donc, les résistances agglomérées, on va commencer par celle-là. Les résistances agglomérées, je vais zoomer pour vous montrer ce qu'est une résistance. Alors, ça c'est raté. Voilà. Une résistance agglomérée, c'est quoi? C'est en fait, c'est du... essentiellement, c'est du carbone ou un matériau plus ou moins conducteur. Donc ça, c'est la résistance agglomérée, une vraie, une belle. Hein, d'ailleurs, on voit bien... Alors là, vous remarquez que le code couleur, la quatrième bague, elle n'est pas excentrée, mais celle-là, elle est bien contre... Ici, on l'a bien mis contre la partie rouge. Donc il n'y a pas de problème, ça fait bien rouge, jaune et noir. D'accord? On va voir... oui, je n'ai pas parlé d'ailleurs de la valeur des résistances. Je vais regarder si on n'a pas... louper un slide tout à l'heure, mais on reviendra dessus éventuellement. Et puis ça, c'est donc une valeur or. Ça, c'en est une assez grosse, qui, à mon avis, c'est une 2 watts, ça. Et ça, c'est une, je pense, un quart de watt, pas certain. Mais voilà, donc c'est la même... à l'intérieur, c'est foutu de la même manière. Donc on a autopsié cette résistance, hein, on l'a coupé en deux, on l'a scié. Et on voit que à l'intérieur, il y a cette cette partie là noire. Et cette partie noire, c'est c'est plus ou moins résistant ou plus ou moins conducteur selon. Et donc on ajuste la valeur ici en creusant de chaque côté, et après on insère le fil ici, et une fois que quand c'est encore chaud, on insère le fil pour arriver ici à la bonne valeur de résistance. En fait, on voit pas ici, mais il y a un petit pas de vis là, donc les deux résistances à fil là, elles sont enfoncées en force dans avec le petit pas de vis qui a été du coup bouffé quand on a coupé en deux la résistance. Et donc, ça, en fait, la valeur de la résistance, c'est entre les deux points qu'on a ici. Voilà. Et selon le matériau qu'on met à l'intérieur, c'est plus ou moins résistant, et on ajuste précisément la valeur de la résistance en creusant ici, en rapprochant plus ou moins les deux fils qui vont être soudés à l'après. L'ensemble est mis dans un... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à... C'est peut-être pas de la bakélite, mais c'est quelque chose d'équivalent. Voilà. Alors, comment savoir précisément la puissance dissipée? Eh bien, d'après la taille, tout simplement. Parce que toutes les résistances, elles ont à peu près la même taille. Quand elles font 2 watts, elles ont à peu près la même taille. Je vais vous en passer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est visible. C'est à la taille qu'on voit les résistances, puisque ce n'est pas marqué dessus. Donc ça, ce sont les résistances carbone. L'intérêt, là, c'est que elles vieillissent pas trop mal en règle générale. Bon, la plupart du temps, elles sont très vieilles, hein. Mais elles ont tendance à vieillir pas trop mal, et elles ont un comportement en fréquence qui est sans problème. Voilà. Donc si vous en trouvez, et en bon état, il faudrait les garder parce que ça peut être intéressant. Le deuxième, alors c'est ce que je vais regarder, où est-ce qu'il est ? Le deuxième, c'est mes résistances à couches de carbone qui sont un petit peu en dessous. Alors mes couches de carbone, voilà, à couches de carbone, elles sont là. Alors laquelle qu'on a dit, voilà, c'est celle-là qu'on a démontée. Alors que je vous montre quand même. Ici, ça c'est du 1 huitième de watt, 1 quart de watt. Ici, ça c'est 1 demi watt, 1 watt, 2 watts. Voilà. Donc ça c'est, et je pense que celle-là aussi est une 2 watts. Pas certain, ou peut-être 1 watt. Enfin voilà. Et donc toutes ces résistances-là sont de la même famille. Ce sont donc des, ce qu'on appelle la couche carbone. C'est quoi la couche carbone ? Concrètement, alors ici vous avez un morceau, alors c'est pas, j'en ai qui sont cassés ici. En fait c'est un morceau de porcelaine, puisque là j'en ai pas qui sont cassés. Il faudrait casser en deux, à l'intérieur c'est un morceau de porcelaine sur lequel on a mis une sorte de peinture, on va dire comme ça, une peinture plus ou moins résistive, donc encore une fois avec essentiellement des matériaux un petit peu conducteurs sans être trop conducteurs, du style du carbone, et donc c'est juste une couche, hein, c'est de la peinture. Et pour arriver à la bonne valeur, eh bien en fait, ici vous avez un... D'ailleurs on voit ici la, comment dire, en dessous la peinture, là, c'est ça qui est en dessous la peinture, et c'est cette espèce de céramique là, qui est là. Hein, c'est ce qui est blanc qu'on voit là. Et donc, sur cette céramique, on dépose une couche de peinture, et après, on fait des spirales pour faire en sorte que, puisque ici, mes spirales, il n'y en a qu'une seule, donc elle commence ici, elle finit ici, et la longueur de la spirale, là, va faire la résistance. On voit bien que cette résistance, finalement, c'est aussi une bobine, quelque part. Et donc, ça va nous poser quelques problèmes par la suite. Et au-dessus, donc, on a des embouts. Donc ici, on a un embout qui va être serti, en fait, de chaque côté. Et là, le deuxième embout qui va être serti. Et l'ensemble va être noyé dans une deuxième couche de peinture pour protéger. Et enfin, on va avoir une troisième couche de peinture qui est là, les codes couleurs. D'accord ? Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les résistances à couche carbone. Pourquoi ? Parce que cette espèce de peinture carbone que l'on creuse pour faire, et donc la plus, en fait le constructeur va ajuster la valeur de sa résistance en creusant plus ou moins. Là il s'est arrêté là, mais il aurait pu continuer aussi s'il voulait avoir une résistance plus importante. Voilà comment les constructeurs font, hein, tout simplement. Ensuite on a les couches métalliques, les voilà. Les couches métalliques, ce sont celles que l'on va préférer. Alors, les couches métalliques, il y a encore cette forme bobine beaucoup moins marquée que avec les couches carbone, mais ça va un peu mieux. Et pour certaines, on a des couches métalliques où c'est absolument pas creusé. Et donc celle-là, elle coûte encore plus cher. Parce que qu'est-ce qui fait finalement la différence ? Eh bien, ça va être l'épaisseur de cette couche qu'on met, qui est une couche qui est très fine, encore une fois, qui va être déposée sur une espèce de céramique. Et donc, c'est cette couche métallique, alors d'un métal plus ou moins résistant ou plus ou moins conducteur, selon ce qu'on veut faire. Et encore une fois, il y a des embouts. Voilà. Le tout est peint. Voilà. Donc ça, ce sont je pense que ce sont les plus chères. Tout au moins les plus chères, celles qui ne sont pas ici, celles où il n'y a pas les, celles qui ne sont pas spiralées, celles qui ne sont pas, celles qui sont pas creusées là. Celles-là coûtent encore plus cher. Alors après, comment le savoir ? Bah, c'est regarder ce que dit le fabricant, ce que c'est, si c'est couche métallique ajustée ou pas, voilà. Donc ça, après, c'est un petit peu l'expérience qui va vous guider. Et encore une fois, là, la taille va dépendre de la puissance dissipée. Donc ça, c'est les couches métalliques. Ici, bah tiens, il y avait des CMS là. On va vous les mettre. Voilà. Donc ça, c'est des CMS. Alors il y a des CMS sur lesquels il y a marqué en toutes lettres ce que c'est. Donc là, 25 ohms, 1%. Super. On est bien content. Et celle-là, elle fait 120. Donc c'est pas évidemment, c'est pas 120 ohms, mais c'est 12, 10 puissance 0. Donc 0, 0. Et si 0, 0, bah il y en a pas. Et donc cette résistance là, elle fait 12 ohms, et non pas 120 comme indiqué. Et celle-là, alors là, si vous avez des bons yeux, moi j'en ai pas, j'arrive même pas à voir ce qu'il y a dessus, mais voilà, et donc ça, c'est du, ça c'est du 20e de watts, donc 50 milliwatts. Et puis enfin, il y a les bobinets, à proscrire dans tous nos montages. La plupart du temps, ce sont des assez grosses résistances, donc c'est marqué dessus, donc 470R, ça fait 470 ohms, elle fait plus ou moins 5%, et elle peut dissiper 7 watts. On voit bien là, on voit bien que en dessous, c'est un fil qui est bobiné. Donc, grosso modo, c'est pas une résistance, quand on va aller en haute fréquence, elle va avoir plus un effet bobine qu'un effet résistance. Et là, non, ce n'est pas. Je pense pas que ce soit 47, je pense que c'est 470. Pas certain. Mais voilà. Ou peut-être 47, je sais pas. Je me l'avance peut-être. Mais c'est peut-être 47. À la limite, s'il y a un doute, on prend l'ohmmètre. Hein. C'est ce qui est encore de plus simple. Ici, vous avez. Je croyais qu'il y en avait une. Non, il n'y en a pas une qui est démontée. Non, il n'y en a pas une qui est démontée. De toute façon, on voit bien là que en dessous, c'est du bobinage de fil. Donc, voilà, il n'y a pas de débat. Il y en a peut-être une ici qui est démontée. Non, même pas. Voilà, donc elles sont toutes pareilles. Et puis après, on a des résistances sur radiateur, comme celle-là. Et donc là, eh bien, elle fait 0,25 ohms. Et elle est montée sur radiateur, donc celle-là, on va pouvoir, malgré sa taille, qui est modeste, hein, somme toute, malgré sa taille, on va pouvoir la faire dissiper 20 watts si on la monte évidemment sur un radiateur. Voilà, donc, puis il y a aussi alors des résistances un peu spéciales ici, des cémentées. Voilà, ça c'est des cémentées. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais voilà. Donc on peut aussi trouver ce genre de résistance, et je ne sais pas trop quelles sont leurs caractéristiques, mais je pense qu'elles ne sont pas très utilisées en radio. Alors Richard 470R qui dit 470 ohms. Donc si Richard dit que c'est 470 ohms, comme il aime bien le matériel ancien, je pense qu'il faut lui faire confiance. Parce que c'est le R qui veut dire résistance après, je pense. Voilà. Donc, et voilà, celles-là, par exemple, elles font 5 watts, 180 ohms, plus ou moins 10%. Les cémentées, en règle générale, c'est marqué en toutes lettres dessus. Et puis enfin, on a les fameuses DIL. Alors ça, c'est du single inline. Donc elles sont donc les résistances, alors je ne sais pas comment elles sont à l'intérieur. Positionnées, mais si ça se trouve, elles sont toutes les unes derrière les autres. Ça dépend finalement de ce que l'on en fait. Ah ouais, d'accord. Sur la petite CMS, Moi, je sais pas là. En plus, la plupart du temps, enfin, c'est très difficile à lire parce que quand on a du matériel des fois ancien, la peinture, elle a tendance un petit peu à partir et donc c'est un peu compliqué. Et effectivement, ces résistances-là, elles sont utilisées pour les commandes de moteur. On va surtout utiliser ça pour ça. Et ça aussi, ça c'est ce que l'on trouvait dans les ohmmètres ici. Donc ça, c'est une résistance qu'on trouvait dans les ohmmètres. Voilà. Avec les différents. En fait, on avait sur chacun des contacts là les différents calibres. Autre résistance qu'on va trouver. Donc là, c'est un diviseur de tension de multimètre. Il l'a mis. Et là, vous avez une jolie résistance. C'est un shunt, ça. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous servir à mesurer une intensité dans un multimètre. Et donc là, on va utiliser la même méthode que pour les résistances. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un circuit comme ça, plus ou moins long. Et on adapte ici la valeur de la résistance avec une scie. Donc on scie ici pour finalement allonger la longueur du circuit et donc augmenter la valeur de la résistance. Voilà, et donc il y a deux traits de scie ici enfin, ils sont prévus pour adapter précisément la valeur de la résistance à la valeur que l'on veut. Parce que ça, c'est un morceau de cuivre. Donc c'est une valeur très 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 faible. Et donc on a que Gérard avait donc, je suppose, récupéré dans un multimètre analogique à aiguille. Voilà. Donc pour vous montrer tout ce que l'on, les différents types. Autre type ici, rapidement, l'évaristance. Donc ça va varier en fonction je sais pas quoi, de la tension, je suppose. Et là, vous avez les thermistances qui, elles, varient en fonction de la température. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va trouver dans les sondes. Les sondes de température. Voilà. Donc c'est des composants un peu spéciaux quand même. Voilà. Je vais vous montrer les quelques composants que j'ai moi ici. Donc premièrement, alors j'essaye de pas trop les bouger parce que j'ai trouvé un éclairage pas trop mauvais. Voilà. Donc ça c'est une résistance agglomérée que j'ai cassée. Donc je ne sais pas si vous voyez ici le reflet doré ici du morceau enfin, le bout de fil qui est ici connecté. Ici, là, je vous ai mis une résistance carbone. Et donc ici, on voit bien le morceau de. Alors, c'est de la céramique, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matériau, mais enfin ça ressemble à de la céramique, un truc équivalent. Ça, c'est une grosse résistance à fil, donc à l'intérieur, c'est pareil, c'est creux hein, pour que la chaleur s'évacue plus facilement. Alors, il manque les photorésistances, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est pas le but de ce soir. Voilà. Ici, ça c'est une résistance bobinée. Donc là, j'ai passé un coup de lime dessus pour faire partir la peinture. Voilà. On voit peut-être un peu mieux les bobines. Ici, ça c'est du carbone. Donc on voit aussi, là j'ai passé un coup de lime dessus. Et donc on voit ici les spirales qui ont été creusées, là, les spires qui ont été creusées pour ajuster la valeur. Ici, ça, c'est une résistance donc à monter sur un radiateur et donc où j'ai coupé aussi à la disqueuse et donc on voit bien c'est une matière ici résistante qui est noyée dans de l'aluminium. Ici, alors ça c'est mon Ça, c'était récupéré sur un voltmètre. Et donc ça, c'est l'ensemble, c'est le pont diviseur de tension du voltmètre. De l'ampèremètre, pardon. Là, c'est l'ampèremètre. Pas le voltmètre, c'est l'ampèremètre. Ici, ça c'est, on n'en a pas dans les, dans la présentation là que je vous ai montré, ça ce sont des résistances variables. Donc ça c'est une petite résistance variable, 10 tours. C'est-à-dire que là il y a une petite vis, ici, là. Et avec cette vis-là, vous la faites tourner, ça vous permet comme ça de changer très doucement la valeur de la résistance. Et donc ça c'est une 10 tours. Est-ce qu'elle, donc elle fait 1 kilo ohm et vous en avez qui sont linéaires et d'autres qui sont logarithmiques. Même chose, ça c'est une résistance ajustable, donc elle s'ajuste ici, hein, tout simplement. Donc voilà. Et puis ça, un potentiomètre, bête et méchant. Voilà, pour le son. Et puis, ici, vous avez toutes les résistances. Alors, j'ai pas de résistance de 2 ohms, mais ici, ça, c'est, ça, ça doit être un quart, un demi, un demi, un demi. Je pense 1, 1, 1, et j'ai pas de 2 ohms. Ça, je pense que c'est 2 ohms, voilà, pour donner une idée de la grandeur. Pour ceux qui veulent avoir une idée de la grandeur. Voilà, donc ça, c'est toutes les résistances que j'ai dans ma boîte à bricolage. Voilà. On va revenir sur le PDF. Et on va continuer. Alors, le PDF, que je mette aussi. Ouais, donc j'ai passé gentiment. Où est-ce qu'il est passé, mon truc? Ah, j'ai pas la slide qui montre. Il me manque une slide qui montre le tableau que j'ai sur les sur le cours, mais voilà, vous retrouvez tout, enfin cette même, ces mêmes informations sur le cours avec les valeurs. Hein, donc voilà, les codes de couleurs. On va les voir dans les questions d'examen à la fin. Alors, en revanche, il y a une question qui revient assez régulièrement, qui est une question un peu tordue. Enfin, on ne comprend pas au début de quoi on parle. Et donc, la question, voilà comment elle est posée. Donc, on a une résistance qui fait 220 ohms. On l'alimente ici par une tension qui fait 6 volts. Et on demande quelle est la puissance minimum de R. On se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on parle là? En fait, il faut bien se voir que les résistances, elles sont prévues pour dissiper une certaine puissance. Si vous faites dissiper, on va dire n'importe quoi, 10 watts à une résistance qui fait un quart de watt, vous êtes certain que votre résistance, elle ne va pas durer longtemps. Elle va fumer très, 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 très rapidement. Et si elle fume, en règle générale, derrière, il y a d'autres composants qui fument. Tant qu'à faire, ce sont les composants les plus chers. Alors, Richard qui dit un truc juste, les Richard ajustables à vis multitour, par définition, elles sont linéaires. Ben oui. Parce que en fait, on va sur le curseur et le curseur, il est linéaire, ou alors il faudrait que le fil soit logarithmique. Alors ça commence à se compliquer. Mais on a des potentiomètres rotatifs qui sont eux qui peuvent être logarithmiques. Ça sert notamment pour le son, puisque le son est quelque chose qui est logarithmique. Voilà. Donc pour revenir à nos calculs de puissance minimum, l'idée ça c'est de savoir quelle puissance doit-on mettre à cette résistance-là pour qu'elle ne fume pas. Voilà. Et donc là, la puissance c'est quoi? déjà on calcule la puissance, quelle est la puissance qui va être dégagée par ce montage. Donc la puissance c'est P égale U2 sur R. Hein, on cherche dans nos triangles de la semaine dernière le triangle qui va bien, où on a à la fois la puissance, la résistance et la tension. Donc il n'y en a qu'un seul. Et donc on a P égale U2 sur R. Et donc U2 c'est 6 au carré divisé par 220. Et donc ce montage-là va dissiper 164 milliwatts. Et dans les réponses proposées, évidemment, il n'y a pas 164 milliwatts, mais il va y avoir, par exemple, 125 milliwatts et 250 milliwatts, qui sont des valeurs standards hein, pour ces résistances. Et donc, si vous utilisez une puissance hein, des 1/8 de watts, donc 125 milliwatts, eh bien vous êtes certain de faire cramer votre résistance. Enfin, tout au moins, elle ne va peut-être pas cramer tout de suite dès que vous allez mettre la tension, mais elle ne va pas tellement aimer, elle va chauffer, et donc elle ne va pas aimer. La question, là, c'est quelle est la première puissance, la première puissance qu'il va falloir utiliser. Et c'est donc 250 milliwatts. Si on avait utilisé une résistance de 2 watts, alors évidemment, on peut utiliser une résistance de 2 watts. Hein. Ça, c'est pas interdit. Problème, c'est que ça tient plus de place. Ça coûte pas tellement plus cher. Bon. Mais, surtout, ça tient beaucoup plus de place. Et, du coup... Enfin, la réponse, là, la bonne réponse, ça serait 250 milliwatts. Donc c'est la puissance juste au-dessus. Puisque la puissance en dessous, 125 milliwatts, ça ne serait pas suffisant. Et on serait certain que la résistance n'aime pas trop. Concrètement, je vous recommande quand même, si vous avez 164 milliwatts à dissiper, de ne pas prendre une 250 milliwatts, mais de prendre d'un demi-watt de 500 milliwatts. Voilà, parce que généralement, les résistances, si on les utilise, alors pas à 80% de leur capacité, il y a des risques qu'elles vieillissent mal. Donc, vaut mieux pas prendre de risques. Voilà. Mais dans la question d'examen, c'est pas la question. La question, c'est quelle est la puissance minimum hein, donc, et la puissance minimum. C'est 250 milliwatts. Hein. Donc c'est un truc, c'est assez tordu comme. Alors il devrait préciser la puissance dissipée minimum de la résistance serait moins tordu. Bah oui, mais c'est pas comme ça que c'est posé la question. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça aurait été mieux de poser mieux la question, mais. Toujours, c'est toujours le problème de ces questions qui ont été préparées par la NFR avec des gens qui sont des bons techniciens, oui, mais peut-être pas bons en français. Voilà, donc ça pose quelquefois des soucis. Les principaux soucis, évidemment, c'est plutôt en réglementation qu'en technique. Donc voilà. Voilà les questions. C'est une question qui est relativement récurrente. Alors peut-être pas celle-là, mais il y en a beaucoup qui tournent autour de ça, c'est une question assez régulière. Et c'est pour ça que je préférais vous le préciser, parce que ça vient pas naturellement. Donc on a des composants dont la résistance est variable, donc là je vous en ai mis, c'est des photos que j'ai trouvées sur internet. Donc ici, des ajustables, parce que l'idée de l'ajustable, vous avez le trait là pour mettre un tournevis. Alors, un tournevis, si possible, pour éviter de faire des problèmes, un tournevis en plastique. Parce que si vous avez des composants du style bobine autour, vous risquez de fausser la lecture du circuit, parce que si vous introduisez du métal à côté d'une bobine, ça va changer la valeur de la bobine. Voilà, donc tous les tourne, les petits tournevis que vous avez pour faire vos réglages, ça doit être en plastique. Donc ça, c'est une résistance ajustable. Ici, une résistance variable. Ici, vous avez une autre résistance variable. Là, on la voit bien, là, la résistance. Elle est bobinée tout autour et il y a un curseur à l'intérieur qui prend la valeur sur la bobine en fait, et donc là, ça permet d'ajuster la valeur. Et puis ici vous avez un potentiomètre qui est ici linéaire dans le sens où on tire droit, mais il peut être aussi linéaire mais aussi logarithmique. Hein, donc voilà, on appelle donc tous ces composants-là, on va les appeler potentiomètres, voilà, de manière générale, pour dire, eh bien, je fais en sorte que je modifie soit la tension, soit la résistance. Alors quand on modifie, on a deux montages, soit un montage comme cela qui permet de court-circuiter en fait une partie du circuit là, et donc comme ça on a une résistance variable, alors qu'ici on a un pont diviseur, et donc ça c'est plus utilisé si on veut ajuster une tension. Voilà, les tournevis pour des établis pour les enfants, ouais, exactement. Alors variable ou ajustable, c'est la même variable, c'est que ici il y a un bouton à l'extérieur qui permet de changer par exemple le niveau du volume. Vous êtes continuellement à vouloir le changer, hein, ou je sais pas quoi, le squelch, le gain micro, que sais-je. Enfin, donc ce sont tous les éléments que l'on veut changer régulièrement et ajustable. Bah, une fois qu'on a fait le réglage, parce que c'est par exemple c'est sur un amplificateur. Une fois qu'on a réglé l'amplificateur, bah, il n'y a aucune raison qu'on change. Et donc, c'est ajustable. C'est pour ça qu'il y a juste une petite encoche là, pour mettre un tournevis. Une fois que c'est réglé, on ne doit plus changer. On en arrive à la loi des nœuds et des mailles. Donc, cette loi des nœuds et des mailles, elle est aussi appelée loi de Kirchhoff. Donc dans la série de portraits qu'on avait fait la semaine dernière de tous les découvreurs entre guillemets de l'électricité, on n'a pas cité Kirchhoff, mais voilà, il fait partie de tous ces gens qui ont mis en place la loi d'Ohm. Donc il est devenu un tout petit peu après, et lui, il s'est intéressé à toutes les lois relatives au circuit électrique. Alors, la loi de Kirchhoff, elle est super, super compliquée. Donc, ou tout au moins, les conclusions et tout ce que l'on tire de la loi de Kirchhoff, c'est super compliqué. Et ce dont on va parler là, c'est vraiment le béaba, le truc le plus simple. Et sachez que la loi de Kirchhoff, si vous creusez un petit peu, c'est un truc super compliqué. Donc, on n'en voit ici que vraiment les prémices. Première chose, et ça me semble, c'est à la fois simple et évident, mais ça va mieux en le disant, et il faut toujours se le rappeler quand on fait, quand on regarde un circuit. C'est quoi ? C'est que, alors premièrement, un nœud. Alors donc la loi de Kirchhoff, c'est aussi la loi, ce qu'on appelle la loi des nœuds et des mailles. Un nœud, c'est un endroit où se rejoignent un certain nombre de fils avec du courant dedans. D'accord ? Donc ça, c'est un nœud. Une maille, ça va être à l'inverse, tout le circuit, circuit compliqué, où on va avoir différentes tensions, donc soit des tensions positives, donc des sources, ou au contraire, des charges, et donc des différences de potentiel. D'accord ? Du côté des nœuds, il est évident que tous les courants qui rentrent dans un nœud sont égaux aux courants qui en sortent. Exemple là dans mon nœud, ici ça rentre, ici ça rentre, et sur les trois autres branches, ici ça sort. Ce qui veut dire que la somme des courants qui rentrent ici en I2 et I4 est égale à la somme des courants qui sortent en I1, I3 et I5. C'est pour ça que j'écris ça comme ça. I4 est égal à I1 plus I3 plus I5. Autre manière de dire les choses de manière plus mathématique, on va donner, pour donner le sens du courant, on va lui donner un signe. Donc, quand, par exemple, ça rentre dans le nœud, ça va devenir positif, et quand ça sort du nœud, ça va devenir négatif. Ce qui veut dire que la somme algébrique, donc algébrique, ça veut dire qu'il y a des plus et des moins, la somme algébrique de mes courants va être nulle dans un nœud. C'est-à-dire que, ça revient au même, hein. Si ici j'ai des valeurs qui sont négatives, eh bien automatiquement ça va me donner, enfin si tout ce qui sort est négatif, ici ça va me donner ici 0. Grosso modo, il y a autant de courants qui rentrent dans un nœud que de courants qui en sortent. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit la semaine dernière que le courant c'était des électrons, et que les électrons, jusqu'à preuve du contraire, eh bien ça disparaît pas comme ça. Voilà. Donc, un électron qui rentre, automatiquement, il va sortir. Et inversement, s'il est sorti, c'est qu'à un moment, il est rentré. Hein ? Il n'y a pas les électrons, ce n'est pas une génération spontanée et ils ne disparaissent pas comme ça. D'accord ? Donc, voilà. Donc ça, c'est la première. Ça semble évident, mais encore faut-il bien le garder en tête. Parce que des fois, quand on a un circuit, on l'oublie quelquefois un petit peu. On peut l'oublier, donc ne l'oublions pas. La deuxième partie de cette loi de Kirchhoff, c'est la maille. Et la maille, bah, c'est un truc assez simple. Ici, je vous ai fait un circuit, vous avez une pile, et donc c'est un générateur qui, par définition, donne une tension positive. Et d'autre part, vous avez, de l'autre côté, une ou des charges. Donc quelque chose qui va consommer votre tension. Et par exemple, ici, j'ai une seule résistance. Donc la valeur ici de la tension dans cette résistance-là, bah, c'est égal à la tension d'alimentation de la pile. Donc la valeur ici de la tension positive de la pile, si je l'additionne avec la tension négative de la résistance, ça va me donner 0. Donc ça veut dire que la somme algébrique de mes tensions dans une maille est nulle. Et si ici, dans ce deuxième partie du circuit, qui est aussi relié à la pile, hein, j'ai d'abord un moteur ou une ampoule, ou tout ce que vous voulez, je m'en fous, hein, et ou une deuxième résistance, et ici une autre résistance, eh bien, la somme des tensions de ma résistance et du moteur va être égale à la tension de la pile. Ou, autre manière de dire les choses, j'ai une tension positive, et je vais ici la faire chuter à cause de mon moteur, puis à cause ici de la résistance qui est là. Donc, quand on suit ici mon circuit, ici j'ai une tension positive, je continue, et ici j'ai des tensions ici qui sont négatives. Je vois bien ici que je suis ma flèche de la tension ici, elle est à l'envers. Elle est bien dans le bon sens, puisque ma pile elle est bien une tension positive. Donc j'ai bien une tension positive ici, une tension positive ici, puisque je suis relié au plus de la pile. Mais par contre, quand je fais le tour ici de ma maille, quand je fais le tour, je me retrouve ici à l'envers finalement, et donc ici j'ai une tension négative. D'accord ? Et donc j'ai pour cette résistance-là, et si je passe ici par le moteur et la résistance, je vais aussi obtenir cette tension négative. J'ai deux fois ici une chute de tension. Évidemment, ces deux chutes de tension là vont être égales à la génération de ma tension ici par ma pile. D'accord ? Donc ça, une maille, c'est quand on fait le tour du circuit comme ça, qu'on revient au départ. Alors que dans ma maille, je regarde ce qui se passe ici à la rencontre de tous mes fils. D'accord ? Donc ça, c'est deux lois qui sont super, super importantes et voilà, on les conçoit, on les comprend. Comme l'intensité, on ne pouvait pas perdre d'électrons au passage, ma tension, c'est pareil, je ne vois pas comment je peux perdre une tension dans ce circuit, c'est absolument impossible. Tout ce qui a été généré par la pile va être consommé derrière par tout mon circuit. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir maintenant s'intéresser. Alors déjà, le pont de Wheatstone, ça c'est une application de la loi des mailles. On va le revoir la semaine prochaine. Le pont de Wheatstone, c'est en fait, ce sont deux réseaux de résistance. Donc là, je vous ai mis deux réseaux de résistance. Je vous ai mis ici les valeurs, par exemple, on a 10 volts là. D'accord ? Et donc, j'applique ma loi d'Ohm. On va voir tout à l'heure comment, pourquoi tout au moins on a cette répartition là de tension. Donc sur cette première résistance, ici j'ai 3 volts, ici j'ai 7 volts, ici j'ai 6 volts sur celle-là et 4 volts sur celle-là, ce qui veut dire qu'entre mes deux ici résistances, ben, j'ai une tension qui fait 1 volt. Et quand on utilise la loi des mailles, un peu plus tordue, je commence ici par ma masse, je monte de ce côté-là, je fais plus 4, je passe par là, donc ici je perds 1 volt, donc je reviens donc avec 3 volts, et c'est normal, c'est marqué 3 volts là, plus 7, et je reviens avec mes 10 volts. Et ou si je passe de ce côté-là, je fais 3 plus 1 plus 6 égale 10. Et donc, quel que soit le passage que je prends, je vais toujours retrouver ici mes 10 volts. Si je passe par là, tout simplement, 7 plus 3, ça me fait 10. Si je passe de l'autre côté, 4 plus 6, ça me fait 10. Et si je passe ici en travers, je vais toujours obtenir mes 10 volts. Voilà. Et quand on dit que le pont de Wheatstone est équilibré, ça veut dire qu'ici, entre les deux, là, j'ai la même tension. J'ai 0 volt. Et dans ce cas-là, mes deux résistances, mes deux réseaux de résistance, ici, ont des valeurs proportionnelles. On verra ça plus en détail la semaine prochaine, quand on verra des questions sur le pont de Wheatstone. Et le pont de Wheatstone est une application de la loi des mailles. Alors, on va voir donc les résistances qui peuvent être groupées soit en série, donc les unes derrière les autres, ou en parallèle, et on va aussi utiliser le mot dérivation, mais généralement on utilise plutôt le parallèle. Quoique le mot dérivation est un peu plus, on le sent un peu plus, enfin voilà, c'est l'autre manière de présenter les choses. Donc pour tous les... Tous les montages, on va voir tous ces montages, donc en série et en parallèle, et on va voir, en appliquant la loi d'Ohm et la loi de Joule, comment on va en déduire, la résistance équivalente de l'ensemble, série-parallèle, et puis la répartition entre chacune des résistances de la tension, de l'intensité et de la puissance. Et enfin, il y a des cas particuliers où on a des résistances en série de même valeur ou des résistances de même valeur en parallèle. Et dans ce cas-là, il y a des formules qui s'appliquent, enfin qui sont issues des valeurs série et parallèles. Bon. Et pour le pont de Wheatstone, non, il n'y a pas de câblage entre les deux. Il n'y a pas de fil qui passe entre les deux. Sinon, s'il y avait un fil, des nœuds, elle va arriver, puisque si vous mettez un fil, et ben, tout sera connecté, et donc il ne peut pas y avoir de tension à l'intérieur d'un nœud. On y va. Premier groupement, c'est le groupement série. C'est presque ce qu'il y a de plus simple. C'est presque, j'ai bien dit. Donc voilà le groupement. Donc vous avez deux résistances. Alors on en a deux, mais on pourrait en avoir autant qu'on veut. Hein. Là, j'en ai pris deux. Si on en a plus, on va voir, ça va fonctionner de la même manière. La résistance équivalente de cette résistance, en fait, c'est la somme. Donc, la résistance équivalente à ces deux résistances qui sont mises en série, c'est R1 plus R2. Et si on en avait une troisième, ça serait R1 plus R2 plus R3. Et une quatrième, etc., etc. Donc, à chaque fois, quand on est dans un groupement série, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Tout simplement. Et donc, par conséquent, mais ça semble, ça va mieux en le disant, la résistance équivalente est toujours supérieure à la plus grande des résistances. Hein, parce qu'évidemment, si vous prenez la résistance la plus grande, comme vous en avez une autre qui est en série, automatiquement, la résistance totale va être plus importante que cette plus grosse résistance. Voilà. Ça semble peut-être bête, mais quelquefois, ça permet de fixer les choses. La tension est répartie au prorata des résistances. C'est-à-dire que ma tension que j'ai sur cette résistance-là, n'oubliez pas ici que j'aurais dû commencer par l'intensité, au lieu de parler de la répartition de la tension. L'intensité, ça c'est ma loi de Kirchhoff, qui me dit que l'intensité qui rentre ici dans R1 va être la même ici entre mes deux résistances et la même ici en sortie, puisque je n'ai aucun fil de dérivation, donc tous les électrons qui rentrent ici dans R1 vont ressortir ici dans R2. Ils ne vont pas s'enfuir. Ils ne vont pas se stocker quelque part. Ils sortent, alors c'est peut-être pas exactement les mêmes, c'est comme le fleuve avec l'eau qui coule, donc on ne sait pas trop à quel moment elle va s'écouler, elle va passer sous le pont. Mais voilà, il y a autant d'électrons qui rentrent que d'électrons qui sortent. Donc on a le même courant, que ce soit en intensité totale dans le circuit, ou dans R1 ou dans R2. C'est toujours la même intensité. Comme c'est toujours la même intensité, et que seule ici la résistance va changer, ma loi d'Ohm, elle va me dire que ma tension totale, qui est ici, elle va être répartie au prorata des résistances. puisque U égale à RI. R est plus faible que l'ensemble du total, là, et donc ma tension sur R1, elle va être proportionnelle à la valeur de R1 par rapport à la tension, à la résistance totale. Et c'est ce que j'ai écrit ici. La tension de R1, c'est la tension totale multipliée par la valeur de R1 divisée par la résistance totale. Et d'autre part, la tension ici totale, c'est égal à la tension de R1 plus la tension de R2 plus éventuellement la tension de R3 si j'ai une troisième résistance. Etc, etc. Donc ça, c'est ma loi des mailles, ça. Ça, c'est ma loi des mailles, ma loi des nœuds, ça concerne de l'intensité. D'accord ? Et ma puissance, la puissance dissipée par chacune des résistances, je rappelle, la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. L'intensité, elle est toujours la même dans mon circuit. La seule chose qui change, c'est la tension. Et la tension, elle est proportionnelle à la résistance. Donc, la répartition de ma puissance va être proportionnelle à la valeur de la résistance. Et donc là, ma puissance dissipée par R1, c'est la tension sur R1 multipliée par l'intensité totale ou la puissance totale multipliée par R1 divisée par la résistance totale. Voilà, c'est relativement simple, enfin assez simple. Sur le papier, c'est simple. Quand on commence à... Alors, les exercices, hein, les valeurs avec la calculette, on les verra, bah, non pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on sera autour de la dinde, mais on les verra à la rentrée. Ça fera le 8 janvier. Voilà. Quand on a un nombre, des valeurs identiques, donc un nombre, un certain nombre de valeurs identiques, la résistance totale, bah, elle est proportionnelle au nombre de résistances. C'est-à-dire que si vous avez, je dis pas n'importe quoi, 20 résistances de 1 kΩ en série, vous êtes certain que ça fera 20 kΩ. D'accord ? Puisque bah, vous les mettez bout à bout, bah, à chaque fois vous additionnez, donc c'est la valeur de votre résistance identique multipliée par le nombre de résistances. La tension, bah, comme les résistances sont identiques, elles vont occasionner la même chute de tension, donc on va prendre la tension totale et on divise par le nombre de résistances, donc, pour obtenir la tension sur une résistance. L'intensité, on a vu tout à l'heure que l'intensité qui passe dans la première résistance, c'est la même que ce qui passe dans la deuxième, etc. etc. Voilà, donc l'intensité, elle est identique. Et la puissance, eh ben, elle est répartie sur le nombre de résistances. C'est-à-dire que si vous avez une puissance de 10 watts et que vous avez 20 résistances, eh bien, chaque résistance va pouvoir dissiper 500 milliwatts. Voilà. Groupement, c'est le groupement parallèle ou dérivation. Et celui-là, il est un peu plus tordu. Enfin, est un peu plus tordu. Pas certain. Tout au moins, il y a plus de formules à apprendre. Donc la résistance équivalente, et encore une fois, on ne va pas faire de calcul à la calculette ce soir, gardez bien ça dans la tête, on fera tous nos calculs, donc encore une fois, au prochain cours. Parce que sinon, il n'en finit pas le cours. Donc, deux manières de calculer, Je vous recommande plutôt la deuxième méthode. Pourquoi? C'est que la première méthode, elle ne fonctionne que si et seulement si on a deux résistances uniquement. Si on a deux résistances uniquement, on peut utiliser cette formule-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette formule. Donc la résistance totale est égale au produit, donc R1 multiplié par R2, et on divise par R1 plus R2. Alors si vous voulez savoir d'où ça vient, vous revenez dans le cours. Dans le cours, je vous ai fait la démonstration de manière mathématique. Il n'y a absolument aucun intérêt à savoir comment ça marche, mais c'est pour que vous sachiez que ça existe. Voilà. Petite formule mnémotechnique, on appelle ça produit sur somme. Produit, donc, la multiplication, et on divise par la somme. Donc, quelquefois, de tête, ça permet d'avoir des choses qui se simplifient. Voilà. Si vous avez deux résistances, ça peut le faire. Mais si vous avez trois résistances, ça devient plus compliqué. Et puisqu'il faut calculer d'abord un premier ensemble, puis cet ensemble, le faire encore un autre calcul, un deuxième calcul, avec la troisième résistance. Et si vous en avez quatre encore à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Et d'où l'intérêt d'utiliser plutôt la deuxième formule qui est là, en fait. Alors celle-ci et celle-ci, c'est strictement la même, sauf que celle-ci, elle est issue, en fait je m'arrête là et je ne mets pas plus quelque chose, je m'arrête là. C'est une transformation de celle-ci. C'est une transformation de celle-ci. Et donc, là, ce que je calcule, c'est 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par R1 plus 1 divisé par R2. Alors, j'appelle ça l'inverse de la somme des inverses, puisque j'ai aussi un inverse, et j'additionne finalement tous mes inverses. Donc c'est la somme des inverses. Et ça, si j'avais une troisième résistance, je ferais 1 divisé par R3. Et si j'en avais une quatrième, je ferais 1 divisé par R4, etc., etc., etc. Donc ça, c'est là votre résistance équivalente si vous utilisez plus de deux résistances. Deux résistances, c'est cette formule, ça va plus vite. S'il y a plus de deux résistances, c'est la deuxième formule qu'il vaut mieux utiliser, ça va plus vite. Et les calculettes le font très bien. Au début, ça fait un peu peur, et puis ça marche très bien. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que la résistance équivalente, et là c'est moins évident, la résistance équivalente de cet ensemble-là est toujours inférieure à la plus petite des résistances. Hein, tout à l'heure, quand c'était en série, c'était la résistance totale était plus grande que la plus grande des valeurs. Là, ici, la résistance totale est toujours plus petite que la plus petite des valeurs. D'accord ? Et c'est normal, puisque ici, j'agrandis le diamètre de mon tuyau, entre guillemets. Puisque j'ai plus de possibilités au courant de passer. Je donne plus de possibilités de passer pour le courant. D'accord ? J'élargis mon tuyau, pour faire simple. Autre manière de voir les choses, on en avait parlé la semaine dernière, c'est non pas de raisonner sous forme de résistance, mais de raisonner sous forme de conductance. N'oubliez pas, la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Et qu'est-ce que je fais ici ? Finalement, j'augmente ma conductance, puisque j'augmente les possibilités pour mon courant de passer. D'accord ? Et quand je reprends ma formule, donc la conductance c'était S que j'utilisais, hein. Donc S total est égal à S1 plus S2 plus S3, et je remplace donc S par sa valeur 1 sur R, et je retrouve bien cette valeur-là, puisque 1 sur R T est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, et après donc j'inverse ça, donc j'inverse de chaque côté de ma parenthèse, donc si j'inverse 1 sur RT, ça me donne RT, et si j'inverse 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, ça me donne 1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Donc c'est bien la même chose. Et donc ma conductance, en revanche, ma conductance totale, elle est supérieure à la plus grande des conductances. Donc quand on est dans un groupement parallèle comme ça, il vaut mieux essayer de raisonner sous forme de conductance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que mon courant passe plus facilement ? On voit bien ici, ça c'est ma loi des mailles, que ma tension est la même sur R1, R2 et R3 si j'avais une troisième résistance. Donc ma tension, elle est constante, et c'est la tension que j'ai sur l'ensemble du circuit. Hein. La tension que j'ai sur R1 va être égale à celle de R2, etc. Puisque ici, j'ai bien un nœud à cet endroit-là, et un nœud, en fait, à cet endroit-là, et si j'ai une troisième résistance, le nœud serait toujours au même endroit. Alors, c'est sûr que si on a un fil comme ça, on ne voit plus tellement le nœud, mais il faut imaginer que toutes mes résistances, en fait, elles sont reliées comme ça à un seul nœud. Ok ? Et donc, à l'intérieur d'un nœud, j'ai toujours la même tension. Puisque, par définition, je n'ai pas de différence de potentiel, enfin, j'ai pas de chute de tension, puisque pas de résistance, et donc j'ai la même tension. D'accord ? Et donc, pour mon intensité, mon intensité, elle va être répartie inversement proportionnellement aux résistances. C'est-à-dire que c'est la plus faible résistance, donc celle qui va avoir le plus de conductance, qui va faire passer le plus de courant. Et donc là, je vais être dans une formule inverse de celle que j'avais tout à l'heure avec mes résistances en série, c'est-à-dire que mon intensité dans R1, c'est l'intensité totale, divisée par la résistance totale, multipliée par la résistance totale, divisée par R1. Alors que tout à l'heure, ici, j'avais l'inverse, R1 divisé par RT. La différence, ici, c'est que RT est systématiquement inférieur à R1. Alors que dans l'autre sens, R1 est systématiquement inférieur à RT. Et conclusion, c'est la plus faible des résistances qui voit passer la plus forte intensité. Et comme la tension est la même, eh bien c'est la plus faible des résistances qui va avoir le plus de puissance à dissiper. Alors que tout à l'heure, dans mes résistances en série, la plus faible des résistances avait le moins de puissance à dissiper, puisque c'était au prorata des résistances. Là, encore une fois, la puissance, elle est répartie au prorata inverse des résistances. Donc, on change complètement, ça fonctionne à l'envers. Pour les groupements donc parallèles de valeurs identiques, donc ma résistance équivalente, c'est la résistance unitaire, donc cette valeur R, divisé par le nombre de résistances. D'accord ? La tension, elle, elle est toujours la même, quel que soit ici le nombre de résistances, la tension ici sera toujours égale, tout au moins égale, sera toujours égale entre les différentes résistances. Et l'intensité, bah, ça va être l'intensité totale divisée par le nombre de résistances. Et la puissance, bah, elle va être répartie, encore une fois, répartie selon le nombre de résistances, puisqu'elles ont toutes la même valeur. Donc, le groupement parallèle de valeurs identiques est quand même un peu plus facile à comprendre, et je comprends que c'est le groupement parallèle qui est le plus... parce qu'il y a des formules qu'il faut apprendre. Le reste, ça reste de la règle de 3 et on sent plus facilement. Le groupement parallèle est quand même assez tordu. Et encore une fois, essayez de vous rattacher plutôt, non pas à la résistance, mais à la conductance. Qu'est-ce qui fait que mon système, parce que là, en fait, je m'intéresse plutôt à l'intensité, alors que dans mon groupement série, je vais plutôt m'attacher à la tension. D'accord ? Donc, encore une fois, les exercices, et notamment avec la calculette, on les verra la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, au prochain cours. Voilà, donc, préparez vos calculettes. On va voir toutes les questions d'examen, sauf les questions évidemment sur les groupements séries parallèles. Et donc le prochain cours, on verra donc ces exercices et on verra aussi tous les groupements un peu tordus, les groupements complexes, tout ce qui tourne autour du pont de Wheatstone et puis tous les montages un peu tordu, où on va vous demander des tensions, des intensités, généralement pas de puissance, mais ça va essentiellement tourner autour de tension, intensité et résistance, donc c'est plutôt la loi d'Ohm que la loi de Joule. Donc les questions, et encore une fois il y en a une foultitude, sur la valeur de cette résistance, donc cette valeur de cette résistance est là comme valeur marron, noir, noir. Marron, donc c'est le 1, le noir c'est 0, et un deuxième 0, donc, et évidemment le piège c'est de la réponse 100, qui est fausse, puisque la bonne réponse c'est donc c'est le 1, 0, mais à la suite il y a 0, 0, donc il n'y en a pas. Donc marron, noir, noir, ça me donne donc 10. 10 et non pas 100 pour ceux qui auraient oublié de ce qu'est le code des couleurs. La puissance minimum, donc ça c'est une question qui est tombée. Alors toutes ces questions-là, encore une fois, ce sont des questions qui ont été posées à l'examen. Alors, plus ou moins récemment, en l'occurrence, ça tombe assez fréquemment, et celle-là aussi. La puissance minimum, donc là, j'aurais dû prendre ma petite calculette. Je vais le faire sans la webcam, c'est pas la peine. Donc, la puissance, là, c'est P égale U2 sur R. Donc, c'est 12 fois 12. Divisé par R33. P égale U2 sur R, voilà. Oula, qu'est-ce qu'elle me fait là ? Patopatam. Elle est en mode fraction, donc elle aime pas trop. Donc j'aime pas trop, moi, ça. Alors, scientifique, 4. Voilà, donc 12 fois 12 divisé par 33 égale. Et bien, elle recommence encore à 48 onzième. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? Bon, je vais reprendre l'autre calculette. La bonne vieille. Alors, 12 fois 12 divisé par 33 égale, ça me donne donc 4,36. 4,36, et donc je prends la valeur juste au-dessus. Donc si je prends par exemple 2 watts, et ben 2 watts, ça ne sera pas suffisant puisque je dois dissiper 4,36 watts. Donc je suis certain que ma résistance, elle ne va pas faire long feu et qu'elle va cramer très rapidement. Donc je vais utiliser la valeur juste au-dessus, c'est-à-dire 5 watts. Et là, je vois que tout le monde a répondu 5 pendant que je cherchais à faire fonctionner ma calculette. Donc tout va bien, c'est 5. Et puis là, pour la dernière question, quelle est l'intensité? Donc j'ai 1 ampère qui rentre, 1 ampère qui sort. Quelle est la valeur de l'intensité qui rentre? Donc c'est 0,5. Alors si j'avais eu une flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire qui sorte, il aurait fallu que je choisisse moins 0,5, ce qui est quand même très tordu. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, celle-là est assez ancienne, et je n'ai pas vu non plus de questions sur des intensités négatives. Mais voilà, on peut tout imaginer avec nos amis de la NFR. Voilà. Donc ça, c'est donc ma loi des nœuds, en l'occurrence. Ah non, il n'y a pas, c'est pas aucun courant. Si j'ai 1 ampère qui rentre ici et 1 ampère 5 qui est ici, encore une fois, mes électrons, ils ne peuvent pas, enfin, il n'y a pas de génération spontanée d'électrons. Et donc, ils doivent arriver par ici, et ils doivent arriver ici avec 0,5 ampères. Voilà. Et en revanche, si vous mettez un condensateur ou une bobine ou quelque chose comme ça, c'est là où la loi de Kirchhoff, elle devient très 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 compliquée. Ça ne marche, ça, la loi de Kirchhoff, elle est simple dans le cas de courant continu et où il y a juste des résistances. Mais dès que vous mettez des composants du style bobine ou condensateur, là vous êtes certain que la loi de Kirchhoff elle se complique de manière exponentielle. Voilà les réponses. Petit exercice. Donc, je vais en profiter pour faire un peu de rangement là sur mon sur ma petite table. Je vais passer sur ma webcam qui fonctionne toujours. Je range tout ça. Je range toutes les petites résistances. Et ça servira pour une autre fois, pour l'année prochaine. Hop, et dans mon pot de confiture. Et maintenant, je sors mon montage. Donc, j'ai ressorti le montage de la semaine dernière. Ça marchait bien. Je vais prendre mon multimètre. Alors, l'idée là, c'est premièrement de calculer, enfin de mesurer plutôt, enfin, premièrement de définir la valeur de mes résistances. Alors, j'ai beau avoir mes lunettes sur le nez, je pense que c'est violet, rouge, orange pour la première. Pas certain, pas certain. ça ressemble à du violet, tout au moins pour celle-là. Donc violet, si je reviens sur mon PDF, je reviens sur mon PDF et je retourne sur mon tableau, si ça veut bien. Violet, donc ça me donnerait 7, 2 et orange 3. Hein, puisque j'ai dit violet, rouge, orange. Sauf que je sais que 72, ce n'est pas une des valeurs normalisées. Enfin, ça c'est l'expérience qui me dit ça. 72, je sais en revanche que 82, c'est une valeur normalisée. Donc la couleur que je croyais être le violet, finalement, ça semble être un gris. Donc voilà, gris-violet, pas facile. La deuxième résistance, première couleur, je vais dire encore une bêtise, donc je préfère m'abstenir. Et les deux bagues suivantes, c'est rouge et rouge. Donc, oui, pour la première, donc c'est, on va terminer la première quand même, donc c'est 82 kilos. Je suis étonné, mais bon, pourquoi pas. 82 kilos. Et puis pour la deuxième, donc ça serait point d'interrogation rouge-rouge. Point d'interrogation, parce que même avec mes lunettes, j'arrive pas à voir ce que c'est comme couleur. Donc le mieux, je vais prendre mon voltmètre et je vais mesurer mes résistances. Donc je reviens sur ma webcam. Je vais le mettre là. Ici, je vais prendre. Hop. Voilà. Je prends ma résistance ici, ma résistance là, et ça m'indique 12 kilo-ohms. Alors là, donc ça veut dire que le premier n'était pas un gris, ça devait être donc un marron. Voilà, donc entre marron, violet, gris, j'avoue, j'ai un peu de mal. Donc ça fait 12 kilo-ohms pour la première, et pour la deuxième, que je mets donc entre là et là, et là, ça me donne donc 8,2, donc 8200. Donc la première couleur, c'était bien du coup un violet, ce que je ne savais pas trop. Violet, rouge, rouge, donc violet, rouge, 8, rouge, 8, et un deuxième rouge, donc pour me donner, je vais y arriver. Violet, 8, rouge, 2. Et rouge 2, donc 2, 0, donc ça me fait bien mes 8200 indiqués par mon voltmètre, par mon ohmmètre en l'occurrence, mon multimètre. D'accord ? Et donc maintenant, une fois que j'ai ces valeurs-là, donc 12 kg et 8,2 kg, je vais mettre ma pile et je vais tenter de calculer la valeur de la tension entre mes deux résistances là, tout simplement à partir des éléments que j'ai vus tout à l'heure pour mon ma répartition des tensions sur mon circuit série. Donc 12 kg et 8,2, je garde ça dans la tête. Au passage, ça me donne donc 20,2 kilo-ohms de résistance totale. D'ailleurs, on peut vérifier. J'aurais dû le vérifier avant de brancher ma pile. voilà, 20,16, parce que je dois être pas exactement à 12 kilos sur l'autre côté, ici, je suis à combien? Voilà, je suis 11,95 et pas 12. Et puis là, je suis pas exactement à 8,2 qui est la valeur standard. Voilà, je suis à 8,2, ça, c'est les plus précises. Et donc, bah, l'ensemble, du coup, bah, j'ai pas exactement mes 20,2, j'ai 20,15, puisqu'il me manquait quelques ohms sur ma résistance ici de 12 kilo-ohms. Voilà. Donc là, j'ai plutôt 20,15 au lieu de 20,2. Voilà. Maintenant que j'ai mesuré mes résistances, je vais mettre ma pile, évidemment. J'ai débranché mon ohmmètre parce qu'il va peut-être pas aimer trop si je lui branche dessus une tension. Donc voilà, je branche ici ma pile. Voilà. Et je vais essayer de calculer la tension. Donc là, quelle est la tension que j'ai sur ma pile? Normalement, c'est 9 volts. Mais je sais pertinemment que j'ai plus que 9 volts. Alors, pile poil 9 volts, tiens. Bah, disons, coup de chance. Donc, ma calculette que je reprends. Hop. On. Voilà. Donc, ma calculette que je mets là pour que vous la voyez. On la voit à la webcam. Ouais. Enfin, on voit pas les touches, mais on voit la calculette. C'est déjà ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais calculer donc la valeur au milieu. Et donc, ma valeur au milieu, donc en mesurant entre le 8,2 ici et au milieu là. Donc, ce que j'ai une tension qui fait 9 volts. Je divise par ma résistance totale, donc 20,2, ou 20,15, puisqu'on a dit que c'était 20,15. Suppresse. Non. 20,15, et je multiplie par 8,2, puisque j'avais bien trouvé ma résistance de 8,2. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, je fais exé. Ah ouais, puis alors, d'accord. Et ça continue encore. Pourquoi ça me fait ça? Alors, elle est en quoi? En mode mathématique. Eh ben ça c'est une super affaire. Qu'est-ce qui va pas? Alors, mode. Bon, ben je vais reprendre l'autre parce que je sens que celle-là elle va m'énerver. Il faut que je retrouve pourquoi elle me fait ça. Bon, il y a sûrement quelque chose que j'ai modifié et je ne sais plus quoi. Donc je reprends ma vieille calculette qui va marcher tout aussi bien. Alors, donc on a dit 9 fois 20,15, non, divisé par, allez, divisé par 20,15, multiplié par 8,2. Hein, donc je divise par la résistance totale et je multiplie par la résistance sur laquelle je vais faire ma mesure. Et ça me donne 366 volts. On va mesurer la tension. 367. 366, 367. Donc on est quand même pas trop mauvais. Et donc, par différence, je devrais avoir sur la deuxième résistance, je fais moins 9. Donc, answer moins 9, qui est donc la valeur sur ma deuxième résistance. Et donc, je devrais trouver 5,34 volts. Je vérifie. 5,34. Donc on est bien d'accord, et évidemment mon ensemble fait bien 9 volts. C'est-à-dire que je le prenne sur la pile ou que je le prenne ici sur le circuit, évidemment c'est la même chose puisque voilà, j'ai mes fils là qui n'ont pas de résistance et donc voilà, je n'ai rien, j'ai pas de chute de tension dans mes fils d'alimentation. Tout au moins l'intensité est tellement faible qu'elle ne va pas me générer une chute de tension. Voilà ce que l'on peut dire. Je reviens sur mon PDF. Alors, si c'est de bien venir... PDF, voilà. Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir. Alors, ouais, et il y a aussi du courant qui fait 450 mA. On aurait pu s'amuser à calculer, enfin à mesurer l'intensité, mais il faudrait que je change complètement tout mon circuit, et le voltmètre aussi, tout au moins le mettre en calibre ampère-mètre. Voilà, et donc, mais c'était pas la manip de la soirée, mais effectivement, si on prend les 9 volts, on va le faire rapidement, si on fait, puisque I est égal à U sur R, donc U 9 divisé par 20,15, exé, et ça me donne 446 milliampères. Alors c'est pas 0,45 milliampères, hein, c'est 446 milliampères. Ah oui, non, mais 20,15, oui. De toute façon, effectivement, il faudrait que je utilise non pas 20,15, mais 20,150. Et à ce moment-là, j'ai 0,45, oui, parce que ça... 450 mA, ça me semblait beaucoup dans mes petites résistances. C'est Claude qui a bien raison. Et donc, ça me fait 0,45 mA. Voilà, on ne va pas le faire là, parce qu'il faut que je démonte tout, mais ça va fonctionner. J'ai oublié de passer sur la webcam pour vous montrer la valeur de mon résultat. Est-ce que ça passe? Ouais. Voilà, et le 9 volts est toujours d'actualité sur mon ampère-mètre. Donc on y arrive. Voilà, je reviens sur mon PDF et je vous souhaite à tous un très bon week-end, de très bonnes fêtes. Ah, ça s'est raté. PDF, hop. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, pas la semaine prochaine, mais maintenant à l'année prochaine. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année, un peu particulières cette année, j'en conviens, mais voilà. Et j'espère vous retrouver en pleine forme l'année prochaine avec de bonnes résolutions, et en particulier dans les bonnes résolutions de passer l'examen radioamateur. Voilà. Et de le réussir. Parce que c'est pas tout de le passer, il faut aussi le réussir. Sur ce, encore une fois, bon week-end à tous et à l'année prochaine maintenant. Bye bye.